Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, bienvenue sur Okapi. Vous savez, la garde des enfants et le droit des visites après le divorce créent souvent des querelles entre les ex-époux. Ils oublient souvent l'intérêt de l'enfant ou des enfants et leur droit à continuer d'entretenir des relations avec le père et la mère malgré leur séparation. L'ensemble de ces querelles est très préjudiciable à l'enfant, d'après aux enfants, d'après les spécialistes. Alors, qu'est dit le code de la famille en ce qui concerne la garde des enfants après les divorces? Monsieur Kom Mosukulu, assistant du président du tribunal pour enfants de Kinshasa et l'invité d'Okapi Service, bon début de semaine.
Merci.
Alors, dites-nous, monsieur Kom, qu'est-ce que la loi dit, le code de la famille dit en ce qui concerne la garde des enfants après les divorces?
Eh bien, merci. D'abord de m'avoir honoré en m'invitant sur votre plateau, je voudrais premièrement souligner que la notion de garde est susceptible d'une double acception, toujours dans le sens civiliste du terme. C'est que traditionnellement, la garde perçue sous l'angle des obligations ou le droit des créances se veut un pouvoir reconnu à un contractant de pouvoir contrôler, surveiller et garder la chose lui remise au titre de dépôt. Par exemple, le dépositaire a l'obligation de bien garder la chose en bon père de famille.
Mais là, il ne s'agit pas d'une chose, il s'agit...
Tandis qu'ici, comme il s'agit de la garde d'une personne humaine que nous appelons enfant, entendre par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans, d'après l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant, au point 2, la garde se veut une prérogative reconnue au titulaire de l'autorité parentale. Autrement dit, la personne à qui la loi reconnaît le pouvoir de contrôler, d'imposer à ses enfants la vie sous son toit.
Et mais dites-nous, pourquoi il y a souvent des querelles entre les ex-époux après les divorces? Tel veut garder l'enfant, tel refuse. Voilà, il y a certains qui font même des tentatives d'aller voler l'enfant pour partir avec lui. Voilà, c'est des choses qui arrivent souvent. Mais dites-nous réellement, qu'est-ce que dit réellement le code de la famille? À qui revient d'office le droit de garder l'enfant après les divorces?
Ok, là il faudra établir un distinguo, parce que j'avais déjà défini l'enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans.
Okay.
Et dans cette catégorie d'enfants, il y a plusieurs tranches. Il y a des enfants qui sont vraiment à un âge tel qu'ils ne peuvent pas être séparés de leur maman.
Quel âge par exemple?
De 0
à 5 ans.
À l'âge de scolarité, à 5 ans.
Okay.
Par exemple, là ils sont trop attachés à leur mère, ils ont des besoins non seulement matériels, physiques, mais aussi et surtout affectifs. C'est ça qui nécessite le rattachement à leur maman. Alors la loi, en cas de divorce, privilégie l'épouse au regard ou par rapport à cette catégorie d'enfants. Alors, quant aux enfants qui sont à un âge assez avancé et dont l'affection maternelle ne peut pas avoir de conséquences préjudiciables en cas de défaut.
Donc c'est-à-dire les enfants qui ont plus de 5 ans.
Plus de 5 ans, la loi veut que l'on puisse confier les enfants à la garde de l'époux qui présente des atouts majeurs, c'est-à-dire des aptitudes ou une bonne moralité pour pouvoir assurer la garde des enfants.
Les atouts majeurs, qu'est-ce que cela veut dire, bonne moralité?
Les atouts majeurs, perçus dans l'optique économique, il faudra que le parent à qui la garde doit être confiée puisse justifier d'un revenu régulier et décent, à même de pouvoir subvenir aux besoins vitaux, sinon fondamentaux de l'enfant, tels que l'alimentation, le logement, le vêtement, l'éducation, l'accès aux soins médicaux. Ce sont là les services sociaux de base auxquels l'enfant a besoin et qui doivent être satisfaits. Et outre ces besoins-là, parce que l'enfant n'est pas qu'un être de besoin, mais aussi un être qui a besoin d'une bonne moralité, d'une bonne éducation, il faudra que l'époux, avantagé par cette décision de garde que le juge devra prendre, puisse être d'une bonne moralité. Par exemple, il ne faudra pas qu'il soit un ivrogne, quelqu'un qui est très instable, spécialiste en découchement, qui rentre trop tard à la maison, etc., et qui est d'un déséquilibre moral tel que il ne peut pas servir de modèle à l'enfant. Parce que, rassurez-vous que nous avons besoin des hommes vertueux, et l'enfant constituant l'avenir de demain d'une nation, il faudra qu'il soit un être complet. C'est ainsi que, le plus généralement, comme nous savons dans nos couples africains, congolais, ce sont des hommes qui sont généralement nantis. Dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui bénéficient de la garde d'enfants.
Parce qu'ils ont des moyens pour nourrir, pour prendre en charge les enfants.
Tout à fait.
Mais on voit également dans la société, la femme peut garder l'enfant et on demande à l'homme de continuer à verser, à payer régulièrement de l'argent pour que la femme continue à s'occuper de ses enfants-là.
Oui, oui. C'est un cas qui n'est pas extraordinaire, c'est légalement prévu, à supposer que, en tenant compte de certaines circonstances qui justifient la décision du juge de pouvoir confier la garde à l'épouse, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, soit même si l'enfant peut être à l'âge de scolarité, peut-être âgé de 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais si, au regard des vices dont le juge peut faire état, dans sa décision,
oui,
dans la motivation de la décision, il se dit que non, il vaut mieux, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant, parce que nous avons une loi spéciale qui déroge au code de la famille, qui devient une loi générale, de droit commun, c'est généralement le code de la famille que nous devons, la loi portant protection de l'enfant que nous devons évoquer en parlant de l'enfant. Là, on confie à la femme la garde, mais on reconnaît à l'homme ou au père des enfants le droit de visite. Alors si...
Combien de fois la semaine, le mois?
Ça relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui pourra reconnaître à l'homme, accorder à l'homme un droit de visite à raison de 4 fois le mois ou d'une fois le mois, tout dépend. Et comme il s'agit d'un droit, il faut savoir que l'homme n'est pas tenu d'exercer ou de faire valoir son droit. Il n'est pas tenu. Le droit étant une faculté, il peut y renoncer. Il peut, par exemple, on lui accorde 4 fois le mois. Bon, il peut venir 1 fois, 2 fois, ça ne nuit pas. Sauf que, comme son droit de visite envers ses enfants constitue pour ces derniers également un droit, et alors, pour lui, une obligation, parce qu'il n'y a pas de droit sans obligation, il y a une relation symétrique. Sur le plan du vinculum juris, c'est-à-dire des obligations, qui fait que l'homme soit obligé, bien que ce soit un droit, de pouvoir rendre visite aux enfants qui ont besoin de consommer aussi, sur le plan affectif, l'amour de leur
père. De leur père. Bien, garde des enfants en cas de divorce, que dit le code de la famille. Modeste Mwamba nous appelle de Kalanga et Samuel Tchungulu est à Bounia.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Garde des enfants en cas de divorce, après les divorces, que dit le code de la famille? Modeste Mwamba, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour l'invité, bonjour à vous, M. Jodine Kachama.
Quelle est votre question, Modeste?
En tout cas, le sujet est vraiment pertinent. Vous savez, beaucoup de familles sont en train d'être victimes de beaucoup de conséquences aujourd'hui par rapport au fait qu'il y a divorce, très surtout entre les jeunes couples, quand il y a divorce pour les enfants. Alors je voudrais par rapport à cela demander à l'invité, s'il y a ce conflit entre ce couple, cela on peut faire proportionnellement appel au régime que nous appelons en sociologie patriarcal. C'est-à-dire que le papa est habilité ou en a l'habilité de pouvoir garder les enfants par rapport à la définition que l'invité nous a donnée parce qu'il a dit et enfant, selon le code de la famille ou selon la constitution, toute personne ayant moins de 18 ans. Alors si ces enfants ont plus de 18 ans, le papa en a l'habilité de garder les enfants par rapport au régime que nous sommes en train de parcourir ou que nous sommes en train de pratiquer, que nous appelons patriarcat. Alors je voudrais aussi demander le point de vue de l'invité par rapport à cela. Deuxièmement, je voudrais un peu que l'invité nous donne des conséquences fâcheuses et très surtout les sanctions pénales que le code de la famille prévoit par rapport à ce conflit, qui doit en subir beaucoup plus de conséquences. Merci.
Merci Modeste. Samuel Tchongoulou de Bounia, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Samuel?
J'aimerais savoir, est-ce que l'enfant a une sorte de responsabilité de choisir les parents qui lui semblent bons? Et la seconde question, est-ce que si dans une famille, le papa n'est pas responsable des enfants, le papa laisse les enfants faire ce qu'il veut, et la maman qui s'occupe même de la scolarisation des enfants, même tout pour les enfants, et lorsqu'il y a un divorce, est-ce que c'est le papa toujours qui va assumer la responsabilité des enfants ou la maman?
Merci Samuel. Monsieur Kom, vous avez la parole.
Merci bien. À la première question, j'ai entendu évoquer le système patriarcat ou matriarcat. Le code de la famille tel que conçu privilégie le système patriarcat parce que, d'après le législateur congolais, c'est le père, l'époux, qui est le chef du ménage. Et il est encore dit, par présomption, que l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. On reconnaît l'autorité parentale, bien sûr, aux deux parents, mais avec prédominance ou prépondérance de l'exercice de ce droit à l'homme.
Alors, il dit ici, l'enfant a plus de 18 ans, donc direct d'office, c'est le papa qui va le récupérer.
Lorsque l'enfant a plus de 18 ans, il a déjà atteint l'âge de la maturité, avec comme conséquence qui découle de cette reconnaissance de la maturité que l'enfant est libre d'émettre son opinion sur le choix.
C'est d'ailleurs la question de Samuel, est-ce que l'enfant peut choisir, voilà, je veux partir avec maman, rester avec maman ou papa?
Oui, parce qu'il a déjà atteint l'âge de maturité, il peut émettre son opinion, l'exprimer, et puis opter pour l'un des parents. Parce qu'il se pourrait que, bien que le père soit nanti, bon ça est une hypothèse classique, bien que le père soit nanti, mais qu'il soit d'une mauvaise conduite, qu'il soit mal réputé, alors que l'enfant est très attiré par la vertu, pour avoir fait par exemple la section littéraire où il a connu des attitudes philosophiques de grands hommes. Alors là, il a un penchant presque naturel vers le bien, l'art de bien faire, vanté par Socrate, Xénophon, Platon, Aristote, etc.
Alors il préfère rester avec sa mère,
c'est ça ? Il le préfère tant que son intérêt n'est pas en danger.
Et si le papa dit, alors, comme tu as décidé de rester avec ta maman, c'est fini, je ne paye plus tes Minerval, elle ne vient plus demander l'argent de poche, rien du tout, donc tu restes là-bas, ta mère s'occupe de toi.
Là, il va se heurter à la rigueur de la loi qui lui impose l'obligation de subvenir aux besoins fondamentaux que j'ai eu à évoquer de l'enfant, notamment, in specie casu, à l'obligation alimentaire qui s'impose sur le père, à l'obligation de scolariser les enfants qui
sont... Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce que la loi prévoit à ce moment-là?
La loi portant protection de l'enfant, en ce qui concerne seulement les enfants, au sens technique du terme, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de moins de 18 ans, en pareil cas, le législateur vient d'ériger en infraction la non-scolarisation d'enfants. Autrement dit, si l'enfant a déjà atteint l'âge de scolarité et que le père ne l'envoie pas à l'école, alors qu'il en a les moyens, ou que la mère n'envoie pas l'enfant à l'école alors qu'elle en a les moyens,
oui,
elle sera passible des peines d'amende.
Mais combien?
C'est déjà érigé en infraction.
C'est déjà une infraction.
C'est déjà une infraction parce que dans la loi portant protection de l'enfant, nous avons maintenant une série d'infractions qui ont été ajoutées dans la partie concernant la protection pénale de l'enfant. Parce que nous avons la protection sociale, la protection judiciaire ainsi que la protection pénale. Dans la protection pénale, il s'agit des infractions que commettent les adultes sur les droits des enfants. Tous les abus commis par les adultes érigés en infraction sur les droits reconnus aux enfants.
Voilà, nous avons en ligne Rachel Ndjounjou depuis Siro et Omar Kigalo de Kinshasa. Rachel, bonjour.
Allô, bonjour.
Quelle est votre question?
J'ai des petites questions. Je voulais un peu savoir concernant les fraudes de la famille. Il n'y a pas une autre loi qui dit de réunir encore le couple quand ils sont divorcés. Concernant le divorce, parce que je trouve ça un peu bizarre. Le divorce n'est pas du tout bien. Donc, ça détruit beaucoup, beaucoup de histoires. Ça pénalise même de l'avenir des enfants. Et d'autres questions, je voudrais un peu savoir. Pourquoi on donne souvent les gardes des enfants chez les pères, pourquoi pas la femme? Ou on peut pas donner, par exemple, si la femme avait des enfants moins de 7 ans et il y avait d'autres enfants qui ont déjà grandi là, pourquoi on ne peut pas donner à la femme les petits enfants là et le papa de rester avec d'autres enfants qui ont grandi?
Merci. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Merci Jody. Avant de poser mes questions, je voudrais d'abord rappeler une jurisprudence de la Cour suprême des 89 qui dit qu'en cas de divorce, les enfants seront gardés là où leur principal centre d'affectif se retrouve. C'est-à-dire quoi? On met les enfants là où leur affection se retrouve. Si c'est papa que les enfants préfèrent, c'est lui qui gardera les enfants. Si c'est maman, c'est elle qui gardera les enfants. Mais seulement les deux époux ont l'obligation de contribuer aux charges ménagères, c'est-à-dire être des débiteurs d'aliments des enfants. Ça, c'était mon apport par rapport à la garde des enfants.
Oui.
Alors, je voudrais poser ma première question à l'invité. Quand on parle de divorce, on suppose un mariage qui a été célébré devant l'officier d'état civil. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire des familles qui vivent sans avoir célébré leur mariage? Dans mon quartier, j'ai beaucoup de cas comme ça. Deux personnes vivent ensemble, ils ont des enfants. Si ces deux personnes se séparent, quel est le sort juridique des enfants qui sont nés d'un couple non marié? Deuxièmement, il y a une différence en droit entre le mariage célébré en famille et le mariage célébré devant l'officier d'état civil. Quelles sont les conséquences lorsque deux personnes qui ont célébré le mariage en famille, c'est-à-dire la dot seulement a été versée, mais qui n'ont pas célébré le mariage devant l'officier d'état civil, quel est le sort des enfants en cas de leur séparation? Voilà mes deux questions, je dis et je vous remercie.
Bien, merci Omar. Adrienne, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour, monsieur Comme Moussoulouko.
Bonjour.
Alors, moi, j'aimerais savoir, en cas d'un couple divorcé où le juge avait confié la garde des enfants à la femme, en reconnaissant au père les droits de visite, alors le père, en visitant ses enfants, je voudrais dire, supposer qu'après quelques mois, il est revenu prendre ses enfants en cachette ou voler ses enfants. Alors ma préoccupation est de savoir, je me demandais à M. Comme, que dit le code de la famille à propos de ces cas, car ça s'est déjà fait ici chez nous. Merci, Jody.
Bien, merci. M. Comme, vous avez la parole.
Ok, merci. Rachel a voulu d'abord savoir si, en dehors du code de la famille, il existe une autre loi qui préconise des solutions en cas de divorce. Non, nous n'avons que le code de la famille. Quand on reste, on peut avoir des publications, c'est-à-dire les écrits des auteurs, des doctrinaires. Mais la loi qui régit la famille dans notre pays, dans l'ancien temps, c'était le Code civil livre premier, mais depuis 1987, il y a eu promulgation du Code de la famille et le 1er août 88, et il est entré en vigueur. Il n'y a que le Code de la famille qui prévoit la matière de divorce.
Et elle dit pourquoi n'est pas, pour les tout petits, pourquoi n'est pas les confier à la maman et les grands peuvent partir avec le papa?
Et je pense que l'auditrice est arrivée légèrement en retard parce que j'avais déjà abordé cet aspect en disant que lorsque je cataloguais les enfants en tranche d'âge, dans la minorité, nous avons les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de scolarité.
De 0 à 5 ans.
Oui, de 0 à 5 ans. Et là, l'attachement, pour des raisons affectives, à leur maman s'impose des planons.
Donc d'office, ils restent avec leur maman. Donc il n'y a rien à dire. Enfin,
d'office, sauf qu'il y a une exception. Parce que la loi ne gît pas dans les principes, mais plutôt dans les nuances. L'exception est que, donc, ici, on va déroger à ce principe lorsqu'on se rendra compte qu'en dépit de ce que la mère devrait être privilégiée, mais si elle présente des tares comportementales odieuses, si bien qu'elle risque d'induire les enfants en erreur dans leur conduite, alors là, on peut la déchoir.
Alors, Omar nous parle des familles sans. Il y a beaucoup de couples qui vivent sans être mariés. Il n'y a jamais eu célébration du mariage civil. Alors, en cas de divorce, quel sera le sort des enfants en cas de séparation?
Oui, qu'il s'agisse des mariés, qu'il s'agisse des personnes qui vivent en concubinage, en union libre, qu'il s'agisse des personnes, des couples qui vivent sous le régime de la possession d'état d'époux. Tous ces genres, toutes ces sortes de cohabitations sont inopérantes au regard des droits reconnus aux enfants. Parce que les enfants sont des innocents, ils ne peuvent même pas subir les distinctions, les discriminations créées par le comportement de leurs parents.
Donc le juge verra entre les deux conjoints lequel
la solution reste
peut
la
bien
même.
Prendre à charge l'enfant et on lui confie la garde.
Effectivement, tout à fait. Donc, ici, ce sont les droits de l'enfant qui prévalent.
Ok. Prenons par exemple le cas des deux écoliers, un jeune homme qui engrosse une écolière. Après, qui va garder l'enfant? Deux écoliers, non, qui ne sont pas mariés, des écoliers à l'école. Au secondaire, voilà, les jeunes hommes arrivent à engrosser une fille, et après elle met au monde, et plus tard, qui va garder cet enfant?
Ici, la matière est technique et à la fois subtile. On peut être écolier et ne pas être enfant. Mais si vous voulez savoir ce que sera la solution lorsque les écoliers sont enfants, c'est-à-dire l'un et l'autre sont âgés de moins de 18 ans, alors, la garde de l'enfant sera confiée à la personne dont la famille
a suffisamment de moyens de prendre en charge l'enfant.
A des moyens et présente aussi une bonne moralité. Parce que vous voyez, les enfants vivent sous la dépendance de leurs parents. Tous les actes qu'ils posent, lorsque ces actes-là sont dommageables, préjudiciables aux intérêts d'une autre personne, ce sont les parents qui en répondent. Bien sûr, conformément à l'article 260 du Code civil.
Alors, Adrien de Lumbashi nous parle d'un cas. Le père avait les droits de visite et chaque fois qu'il va voir l'enfant, et un jour, il s'est arrangé pour voler, d'après elle, pour prendre l'enfant et disparaître avec cet enfant. Que prévoit la loi dans ce cas-là?
Là, déjà, l'article 131 du Code. De la loi portant protection de l'enfant pourra être d'application parce que là déjà il est en train de contrevenir à une décision, à une mesure prise par le juge dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La garde est reconnue à l'épouse, le père n'a que le droit de visite. Et lorsqu'il contrevient ou il abuse de son droit de visite en la métamorphosant frauduleusement, c'est-à-dire en violation de la loi, et il va se heurter à la rigueur, il va se heurter à la rigueur de la loi, parce que là, il aura enfreint, il aura fait obstruction à une décision.
Et la rigueur
judiciaire.
De la loi, quelle est la sanction qui est prévue?
J'ai bien dit,
dans
c'est l'article 131, on va le mettre à disposition des officiers du ministère public.
Oui, mais la sanction, c'est quoi? Comme ça, on peut se faire une idée.
La sanction, lorsqu'on le met à disposition du ministère public, le ministère public va apprécier, pourra même faire fixer l'affaire devant le tribunal pour pouvoir octroyer à la femme qui est préjudiciée dans ses droits de garde ou dans son droit de garde à pouvoir être dédommagée.
Bien. Donc le montant reste à déterminer par le juge.
Oui, le juge va apprécier. Parce qu'on laisse toujours une marge de manœuvre.
Bien. Monsieur Paty Koumou nous appelle de Kinshasa et Jean-Patrice est également à Kin. Monsieur Paty, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour Monsieur Paty.
Bonjour Monsieur le Kinshasa. Allô?
Oui, on vous écoute. Dommage, désolé, il n'est plus en ligne. Jean-Patrice, vous êtes...
Des agréments lors de la visite...
Jean-Patrice,
oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre question?
Oui, je disais ceci. Pour éviter certains désagréments lors de la visite, dans certains horizons, on limite le territoire de celui qui va rendre visite. Il y a par exemple 100 mètres pour ne pas passer ces limites-là dans certains territoires. Donc, alors, pourquoi le code de la famille congolaise n'a pas prévu tout ça?
Voilà, il y a des certains périmètres de visite qu'on impose généralement à qui? Au papa? Au père? Voilà. Vous avez compris la question.
Je vais faire allusion à la législation européenne, occidentale, parce que c'est là que l'on détermine le périmètre, etc.
On interdit, par exemple, à un père, tu n'as pas les droits
d'accéder à tel périmètre.
Jusqu'à un tel périmètre. Si tu franchis le périmètre, il y a des sanctions.
Ouais. Mais ici, chez nous, le législateur a voulu entendre, lorsqu'il préconisait cette solution, il voulait que les enfants puissent garder le contact, qu'ils puissent garder contact avec l'époux désavantagé par la mesure de garde. Alors, il faudra que les enfants entrent en contact, qu'ils se voient, ils peuvent s'embrasser avec le père, etc. Non. Le juge peut, par exemple, choisir un cadre neutre, un domicile neutre qui peut être le domicile des grands-parents, de l'époux ou de l'épouse, ou bien chez un pasteur, chez un prêtre, ou chez une personne de bonne moralité neutre. Alors, lorsqu'ils se rencontrent là-bas, le papa, s'il est mal intentionné, a supposé que la mère soit distraite pour aller se soulager pendant qu'ils sont au salon en train de s'entretenir. Le papa peut aussi poser le même comportement. Ce qui importe, c'est que chacun puisse observer les limites de ses droits. Et la personne qui est privée de la garde et qui n'a que le droit de visite puisse se limiter, se contenter dans ses mouvements, dans l'exercice de ses droits, à ce qui a été prévu par le juge.
Il ne doit pas disparaître avec l'enfant pendant que l'autre est allé à la cuisine. Voilà, parce que c'est des choses qui arrivent aussi.
C'est ça, et s'il osait le faire, là, il sera poursuivi et il va dédommager l'époux désavantagé.
Il y a certains, par exemple, la dame qui garde l'enfant, elle déménage sans signaler à son ex que, voilà, j'habite maintenant à tel endroit et le monsieur peut revenir pour voir les enfants et il trouve qu'ils ne sont plus là.
Là également, la femme aura violé la loi parce qu'il faudra que... N'oubliez pas que le droit reconnu à l'époux désavantagé par la mesure de garde à pouvoir rendre visite à ses enfants constitue aussi pour les enfants un droit et pour la personne qui a la garde l'obligation. L'obligation de reconnaître à l'autre et de lui faciliter l'exercice, la mise en œuvre de son droit de visite. Et si c'est l'épouse qui contrevient, l'homme pourra aussi se plaindre, saisir la justice pour dire que non, le droit que m'avait reconnu de pouvoir visiter mes enfants, sont piétinés presque impunément par l'autre partie. Je suis préjudicé.
Et si par exemple, l'un des conjoints arrive à conditionner les enfants pour qu'ils n'acceptent plus, qu'ils refusent de voir, par exemple, leur père ou leur mère. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui est prévu par la loi?
Le principe général de droit veut que tout comportement dommageable, tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, article 258 du Code civil de droit, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Autrement dit, lorsque un droit est reconnu à l'un des conjoints, parce que là, quand on parle de garde, on envisage des personnes qui sont séparées. Alors, l'un des conjoints qui porterait atteinte au droit de l'autre, si ce dernier prenez la décision de pouvoir saisir la justice pour démontrer en quoi il est préjudicié, la conséquence inhérente à tout préjudice, c'est la réparation.
C'est-à-dire, on va vous arracher d'abord la garde des enfants.
Le juge pourra aussi arriver à ce point ultime. Peut aussi arriver à ce point ultime. Mais avant qu'on arrache la garde des enfants à l'autre conjoint, il faudra que les conditions, les causes qui justifient la cessation de ce droit-là puissent être suffisamment démontrées. À supposer que l'époux tombe en déconfiture, c'est-à-dire que sur le plan financier, il ne sait plus, il a perdu son emploi, ou bien il est allé en retraite, etc., ou qu'il a subi un cataclysme naturel tel que le séisme en Haïti, et qu'il est dépourvu de moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux, pour pouvoir faire accéder ses enfants aux besoins fondamentaux ou aux services sociaux de base, alors là, on peut mettre fin à la garde et confier les enfants, parce que, n'oubliez pas que c'est l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant, qui est la préoccupation constante et primordiale dans toute mesure et décision
tout
à prendre.
Tout doit être fait dans l'intérêt de l'enfant.
Dans l'intérêt des enfants, voilà, là c'est très bien compris.
Bien, merci M. Kom Moussoulougou. Je rappelle que vous êtes l'assistant du président du tribunal pour enfants de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon début de semaine.
Merci bien, merci.